pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dans le cadre de mon émission Jazz Rétro, dont le premier numéro a été diffusé à la fin de l'automne 1996, au siècle dernier donc, je vous invite à découvrir une série intitulée « L'histoire du blues ». Grâce à Jean-Marie Pilet qui a une discothèque très fournie sur le sujet et qui me tiendra compagnie pour nous présenter cette musique de blues. Le blues, le pur, le vrai, l'authentique, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Clarence Gatemouth Brown ne se contente pas de jouer les nombreux instruments qu'il connaît tous, évidemment. Il excelle aussi dans la pratique du blues, de la country, du jazz ou du rock'n'roll. C'est celui que je préfère. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des ambassadeurs émérites de la musique afro-américaine dans le monde.
Avec No Looking Back, Clarence Gatemouth Brown a enregistré l'un des tout meilleurs disques de sa carrière. Il suffit de citer Alligator Eating Dog pour s'en convaincre. Voilà bien un morceau où l'humour et la sensualité de l'idiome afro-américain font foi.
Le pauvre chien face à l'alligator, c'est assez terrible.
C'était perdu d'avance.
Let me tell you about a dog I've got. He ain't no fighter and he ain't no spot. He's a blue comeback, an alligator eating dog. Ears like radar, eyes like fire, feet like a bear, hair like wire. He's a blue comeback, an alligator eating dog. Now, ladies, if you ever see one of these dogs, don't make the mistake by going up to him, patting him on the head, talking about nice little dog and my daddy bought me one, but off a little girl. You know what's gonna happen? He's so mean and that's no lie. The cottonmouth bite him and the cottonmouth dies. Blue gum cattle, who the alligator eating dog. Now, if you ever down in Louisiana, for God's sakes, don't ever put your hand on the blue. Now, if one of you beer drinkers ever see one of these dogs, don't make the mistake by trying to pet him. What you do, you walk up behind him, walk on something, pull up his ear, and you blow.
Le monstre sacré de la musique populaire américaine qu'il est aujourd'hui, Clarence Gatemouth Brown a dû batailler ferme et vaincre les réticences du milieu musical, mais aussi se montrer persévérant et courageux face à de pseudo-spécialistes, il y en a toujours, jugeant indispensable de coller une étiquette à chaque artiste. On pourrait penser que ce musicien louisiano-texan s'est ingénié à défier les règles les mieux établies depuis le début de sa carrière. En effet, non seulement ce talentueux chanteur joue fort bien de la guitare, du violon, de l'harmonica, de la batterie, excusez du peu, mais c'est avec une égale conviction qu'il s'exprime dans les domaines du blues, de la soul, de le country et western, du zydeco, du jazz et du rock'n'roll. Les seuls à en être surpris sont ceux qui n'admettent pas que Clarence Gatemouse Brown fasse partie de ces musiciens pour lesquels les frontières stylistiques n'ont jamais existé. En revanche, ceux qui l'ont vu lors du Chicago Blues Festival, du New Orleans Jazz et Heritage Festival ou sur la scène de Montreux ont parfaitement compris que sa plénitude artistique passait par des expériences de toutes sortes. Cette leçon, apprise auprès de ses mentors Louis Jordan et T-Bone Walker, il l'a transmise à d'autres artistes, parmi lesquels Guitar Slim, Albert Collins ou Johnny Guitar Watson.
Instrumentaliste brillant, que ce soit à la guitare ou au clavier, Lucky Peterson est aujourd'hui l'une des valeurs sûres du blues. iPhone I Love s'inscrit dans une démarche esthétique à la fois moderne et respectueuse de l'héritage musical noir, puisqu'il s'agit d'un titre que Wilson Pickett avait écrit à l'époque pour les Falcons.
Ceci a valu, pour reprendre les propos de Jim DeCoster dans Living Blues, de s'imposer comme une légende majeure du blues de l'après-guerre. bien qu'originaire de la Louisiane, puisqu'il a vu le jour à Vernon, c'est près de chez nous, le 18 avril 1924, Clarence Brown a passé toute son enfance au Texas, dans la petite ville d'Orange, décidément située à quelques miles de la frontière entre ces deux États. Son père, qui travaille pour le compte de la Southern Pacific comme conducteur de locomotive, est également un musicien averti. Il joue de plusieurs instruments, notamment chaque fin de semaine à la tête de son string band. Et de plus, il possède une très large culture musicale populaire, allant du folklore français aux traditions texanes. Il transmet donc naturellement le virus de la musique à Clarence, ainsi qu'à ses deux autres fils, Bobby et James, qui s'orientent pour leur part vers la batterie et la guitare, un véritable orchestre familial. Si Clarence s'est pris de passion pour le violon, la batterie est également un instrument qu'il affectionne. C'est même comme batteur d'un petit orchestre local qu'il affronte pour la première fois le public. Puis, en 1940, il parfait son apprentissage au sein d'une troupe ambulante baptisée les Brown Skin Models. Il y découvre la vie d'artiste tout en prenant goût au voyage. Hélas, trois fois hélas! En décembre 1941, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les États-Unis décident de s'unir à l'Angleterre pour lutter contre les forces de l'Axe et Clarence Brown se retrouve enrôlé au sein des troupes de l'oncle Sam.
Albert Collins a enregistré quelques-uns des blues les plus poignants de sa carrière chez Alligator, comme Avalanche, parfait joyau, naviguant à la frontière entre Texas et Chicago Blues.
À la vie civile dès 1942, Brown retrouve le Texas, où il peut s'adonner pleinement à sa passion. Membre du grand orchestre de Horts Hughes, fort populaire dans les ballrooms de San Antonio, il y révèle un formidable sens du swing qui séduit les Américains pour lesquels la danse est la seule échappatoire aux affres de la guerre. D'ailleurs, à cette époque, le jeune instrumentiste préfère de beaucoup le jazz au blues, dont le message foncièrement pessimiste lui est totalement étranger. Il n'y a en fait que deux bluesmen qui trouvent grâce à ses yeux, Louis Jordan pour son sens de l'humour et surtout T-Bone Walker pour sa flamboyante virtuosité artistique. L'intérêt de Brown pour la musique de Walker est si fort que lorsqu'il apprend que celui-ci doit se produire au Bronze Peacock, il prend immédiatement la route de Houston. La suite est plus insolite. Dans la seconde moitié des années 40, Clarence Gatumus Brown était certainement le disciple le plus fidèle de T-Bone Walker. Ainsi, lorsqu'il apprit que son maître avait été engagé par Don Robey pour se produire au Bronze Peacock, il se rendit immédiatement à Houston. Or, ce soir-là, T-Bone était souffrant. À un moment, il a posé sa guitare et il s'est retiré, se souvient Brown. « Je me suis levé, je suis monté sur scène, je me suis emparé de sa guitare et j'ai commencé à jouer un boogie que j'avais écrit. » Et Clarence Brown de poursuivre. En un quart d'heure, j'avais gagné $600 en pourboire. Les gens m'en fourraient partout, dans mes poches, dans mon col de chemise, dans la guitare. Tout le monde était content, sauf T-Bone. Il est sorti de sa loge comme une furie, il m'a arraché la guitare des mains et m'a dit que je n'avais pas intérêt à recommencer.
Bien qu'il ait été l'un des meilleurs harmonicistes de l'histoire du blues, Big Walter Horton n'a jamais enregistré d'album en solo, d'une qualité en rapport avec son talent. Seule exception, le disque qu'il a enregistré avec Carrie Bell pour le compte d'Alligator et qui comprend ce savoureux Christine.
En montrant la détermination de Clarence Gatumus Brown, l'anecdote du Bronze Peacock constitue la première étape de son parcours vers la reconnaissance. En effet, le propriétaire de ce club de Houston, Don Robey, est très impressionné par la personnalité et le talent de Clarence. Il commence par l'engager au Bronze Peacock avec un big band de 23 musiciens. Puis, devenu son manager, il organise maintes tournées. Enfin, convaincu que le temps est venu pour lui d'enregistrer, il le met en contact avec la firme californienne Aladdin, où il grave ses premiers titres en 1947. Confronté au manque d'enthousiasme des responsables d'Aladdin, Robé ira jusqu'à fonder son propre label, Peacock Records, afin d'assurer la promotion de son protégé. Si Clarence Gatehouse Brown a été puissamment influencé par des pionniers du rhythm and blues tels que Louis Jordan et surtout T-Bone Walker, il a également marqué de son empreinte un grand nombre de créateurs. L'un de ses plus fidèles fils spirituels a certainement été Guitar Slim, lui aussi originaire de Louisiane, qui a obtenu un très grand succès en 1954 avec Things I Used to Do. Mentionnons aussi Albert Collins et Looney Brooks, brillants représentants de la scène du blues louisiano-texane, ainsi que Johnny Guitar Watson, qui, jusqu'à sa mort, survenue en 1996, a brillé de mille feux sous le soleil de Californie.
James Cotton, qui a brillamment remplacé Horton dans l'orchestre de Muddy Waters, a enregistré pour Alligator des titres tout à fait évocateurs de son talent. Part-Time Love en fait partie, qui s'inscrit de fort belle façon dans la grande tradition du blues moderne.
Jusqu'au début des années 60, une profonde complicité lie Clarence à Don Robé, ce qui se traduit par l'enregistrement de chefs-d'œuvre du Texas blues, tels que Hokey Dokey Stomp, Boogie Rambler, Just Before Dawn et Dirty Work at the Crossroads, qui font tous leur entrée dans les charts noirs. Puis, en 1962, c'est la rupture, due à la volonté de Robé de privilégier la carrière d'artiste, comme Bobby Blue Band ou Junior Parker, mais aussi au désir de Brown de franchir un nouveau cap. Durant la seconde moitié des années 60, Clarence s'établit à Nashville, vit des années en demi-teinte, même s'il enregistre quelques excellents disques de country et western, et s'il participe au show télévisé The Beat. C'est au début de l'année suivante, après avoir été un temps shérif dans une bourgade du Nouveau-Mexique, que Clarence prend un second départ. En effet, à partir de 1971, l'Europe, particulièrement la France et la Suisse, lui réserve un accueil chaleureux, au point qu'il enregistrera deux albums superbes pour la firme Black & Blue, remportant aussi un véritable triomphe sur la scène de Montreux en Suisse. Aux États-Unis, son rôle dans l'histoire de la musique afro-américaine sera également reconnu lorsque le département d'État le conviera à se rendre dans plusieurs pays africains comme le Botswana, la Zambie, le Kenya et l'Égypte avant qu'il visite l'Extrême-Orient et l'Union soviétique.
Comme son nom l'indique, Up and In est le titre clé de ce fabuleux album sorti en 1997. Ici, fidèle à l'esprit du Delta, l'ancien guitariste de Much Walter rend ici hommage aux musiciens de Memphis, ses habitués des clubs de Beale Street. Jean-Marie Pilet
et Marie-France Guimard-Roche vous disent au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de l'Histoire du Blues, enregistré et réalisé par Pierre Écart pour vous dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.
Out my boss, got fired, then I hit the lottery, now I'm retired. That's just my luck, and that's just my luck. Hey, what can I say? Well, I'm just lucky that way. My old lady quit me, didn't know what I would do. Called a sweet young thing and a twin sister too. That's just my luck, that's just my luck. Hey, what can I say? I'm just lucky that way.